Chef Boilardi 92, Michel Courtemanche. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qui est sorti, tout le monde en parle, à propos du livre de Michel Courtemanche qui sort aujourd'hui, donc le 15, en tout cas, bref, je ne sais jamais trop les dates. C'est un podcast, ça tombe bien, hein, c'est pas important les dates. Et là, je vais vous parler d'affaires que je sais de sources directes concernant les contrats et le lien d'affaires qu'avait Michel Courtemanche avec Juste pour rire. Et vous vous ferez une tête là-dessus parce que, fidèle à mon habitude, moi, je suis pas... c'est pas un cas d'être ni d'un bord ni de l'autre. C'est de comprendre qu'est-ce que l'autre bord comprend. Puis c'est un parfait exemple de communication où est-ce que chacun peut se tirer des roches, où chacun peut, à quelque part, avoir... le sentiment que les choses ont été bien ou mal faites, mais quand tu écoutes l'autre bord de la clôture, tu fais coudon. Ça peut être plus subtil que ça, tu sais. Juste pour rire, qu'est-ce que ça a fait Juste pour rire? Puis j'en parle parce que j'ai été très proche de l'organisation pendant longtemps. Moi, j'ai envoyé un CV à Gilbert Rozon quand j'étais étudiant en droit, parce que c'est ça que je voulais faire, comme j'avais fait avec André Arthur d'ailleurs au cégep. Puis j'ai commencé à la billetterie, croyez-le ou non, aux alentours de 1992-13 à peu près. Ça fait que je venais d'être assermenté comme avocat, puis trois semaines plus tard, j'étais à la billetterie de Juste pour rire, puis je ramassais des téléphones. Mais je ramassais des téléphones, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Alors, l'histoire de Juste pour rire, avec du recul, puis c'est Gilbert Rozon lui-même qui disait ça, c'est que, dans le fond, ils n'ont pas créé, ils n'ont pas fait de miracles, ils n'ont pas marché sur l'eau. Ils ont organisé l'humour. Alors, il y a quelque chose de très culturel dans l'humour au Québec qu'un sociologue devrait répondre, puis ça a probablement déjà été fait dans une quelconque étude universitaire qu'on n'a pas accès, ben, qu'on a accès, mais qu'on connaît pas. Mais, tu sais, je veux dire, c'est totalement anormal la force de l'humour sur scène ici par rapport au marché potentiel. À nulle part ailleurs au monde, c'est le même. Vous avez jamais autant d'humoristes qui ont un degré de notoriété nationale toute proportion gardée en France qu'au Québec. Puis aux États-Unis, c'est encore moins. Je parle au niveau scène. Oubliez ça, là. Puis comme Andy Norman disait, qui est le fondateur de Just for Laugh, donc le côté anglais de Juste pour rire, aux États-Unis, un humoriste, ça fait de la scène pour éventuellement faire du cinéma. Tandis qu'au Québec, un humoriste, ça fait de la télé, de la radio, etc., pour éventuellement faire de la scène. Il y a des raisons économiques là-dedans, c'est-à-dire qu'un show qui marche, c'est payant, tandis que rien n'est plus payant que d'être une vedette d'Hollywood. Fait que là, à la rigueur, on peut comprendre ça. Mais au-delà de ça, c'est très, très culturel. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la population, ici, qui fait que l'humour, potentiellement, ça pouvait marcher à ce niveau-là. Donc, Juste pour rire, arrive au monde et organise l'humour, fait un festival, etc. Puis au début, il décide de signer... Ça, c'est François Rozon qui me contait ça. Au début, il décide de signer des artistes en se disant, il va falloir à un moment donné qu'on ait du monde qui font notre festival. Ça nous prend des humoristes. Donc, tout tournait autour du festival de Gilbert. Et Daniel Lemire puis Michel Courtemanche ont été dans les premiers. Puis comme François disait, il dit, Michel Courtemanche, là, c'est très facile de parler de son succès après coup. Puis là, tout le monde, oh mon Dieu, quel artiste de génie, etc. Tout à fait vrai, honnêtement. Mais il reste que comment tu vends ça, Michel Courtemanche? Tu vends ça comment, toi? Un mime qui fait des jokes, mais qui parle pas tant, puis que... Ça fait que, croyez-moi, là, ça se faisait pas en criant lapin, là. C'est toujours facile de dire, après coup, pourquoi quelque chose n'a pas marché, pourquoi quelque chose a marché. Mais le propre d'un producteur ou d'un entrepreneur, c'est de dire, regarde, voici pourquoi ça va marcher, puis si ça marche pas, je vais le twister autrement, puis ça va finir par marcher. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça fait que François Rozon s'est avéré être quelqu'un qui était très compétent là-dedans. Puis, il a trouvé une façon de vendre Michel qui a été efficace au Québec, puis par la suite, encore plus efficace en France. Double défi. Et là, au début, les contrats des artistes qui étaient... Donc, tu avais Juste pour rire l'entité festival, puis tu avais Rozon comme tel, production Rozon, je me souviens plus exactement du nom, mais bref, qui était la compagnie d'abus lucrative, là, si tu veux, qui montait des shows, qui vendait des tickets, etc., sans subvention, je le rappelle, parce que aujourd'hui tu fais des albums, tu sors des disques, tu fais de la danse. Il y a toujours des chèques qui arrivent du gouvernement, mais en humour, il y a quelques vulgaires crédits d'impôt. Il n'y a pas vraiment de temps. Voilà, 28 000 piastres pour toi pour monter ton show d'humour. Oubliez ça. C'est parce que c'est rentable ou autre. Bref, il y a une logique là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire que c'était vraiment comme à la dure. Là. C'est vraiment comme lancer là, n'importe quel autre business. Sauf que ton produit, c'est une personne. Puis en plus, c'est pas évident de dire comment tu la vends. Petite parenthèse, Grégory Charles, en France, c'est exactement le même problème qu'il y a eu. Moi, j'étais là à sa première, à Grégory Charles, dans le temps qu'il était feu de flamme comme chanteur avec son album, etc. Puis avec son spectacle, surtout. Là, c'était surtout avec son show, là, que tu piges des tunes au hasard ou tu lances des tunes puis il connaît toutes. Sa première était hallucinante. Là, je veux dire, sérieusement, c'est une réussite totale. Pourtant, ça n'a jamais levé. Parce que comment tu fais la promotion de ça? Comment tu fais la promotion d'un gars qui, dans le fond, ce qui est hot, c'est qu'il connaît toutes les tunes puis peut tout jouer, toutes les tunes que tu vas y lancer? Tu fais quoi? Tu t'en vas à Drucker faire quoi? Ah, regardez ce gars-là, en 4 minutes, parce que là, t'as pas une heure à télé, en 4 minutes, il va faire des tunes que vous connaissez. C'est une banalité sans nom. Puis les colonnes Maurice à Paris, puis il y en avait à mort, il y a eu un budget de fou qui était mis en arrière de ça. C'était un gars, c'était lui, qui la grande bouche ouverte, qui chantait, puis qui ça disait « Vous n'avez jamais entendu ça » ou « Je sais pas trop ». Bref, c'était effectivement impossible, en peu de temps, de communiquer c'est quoi ça, Grégory Charles, qui fait un spectacle, qui pourtant est tout feu tout flamme. Ça convient à Michel Courtemanche, donc les contrats sont signés à ce moment-là, puis rapidement, Juste pour rire se rend compte qu'une entente à 75-25, donc 75% pour le producteur, 25% pour l'artiste, ça permettra jamais de faire des investissements massifs. C'est comme quand Pierre-Yves McSween dit le problème des logements insalubres, puis des duplex puis des triplex poches sur le plateau, c'est que il y a trop de réglementations qui font que de rénover ces logements-là, c'est sans intérêt pour le propriétaire. Ça fait qu'il les laisse les plus tout croches possible. Ça fait que je connais pas le domaine, mais je comprends la logique, tu sais. C'est à un moment donné, François a parlé avec Michel, puis a parlé avec Daniel Lemire, puis il a dit « Hey les gars, pour qu'on puisse vraiment peser sur le gaz, puis avoir du... » Tu sais, parce que l'artiste, lui, on va dire les vraies affaires, il écrit un spectacle, il rentre chez eux. C'est quoi ses frais? Il n'y en a pas de frais. Ses frais, c'est son talent. Puis mais il n'y en a pas. Mais quand tu es un producteur de spectacle, ben, si tu es digne de ce nom, tu as un bureau, tu as du staff, tu avances des argents, etc. Bon, à un moment donné, ça prend un retour. T'sais, c'est beau de dire « Ah, oh, mon Dieu, voici le gros méchant producteur qui prend temps. » Ouais, OK. Il peut aussi prendre la moitié moins puis juste pas le faire, le projet. Ça fait qu'à un moment donné, il faut aussi que le monde se mette ça dans leur pipe. T'sais. Ça fait qu'il a augmenté à 50%. Et puis, tout le monde a signé ça avec gaieté de cœur. Puis, à ma connaissance, Michel Courtemanche et Daniel Lemire n'ont pas eu des petites carrières. Ils ont eu des carrières flamboyantes. Puis ça, c'est comme quand, dans le temps, il y a eu beaucoup de monde qui se sont ralliés contre Stéphane Ferland. Qui avait une boîte de prod aussi, puis là, tout à coup, « Ah, oh, il est pas correct. » Puis tous ceux qui chialaient qu'ils étaient pas corrects, c'était tout pas loin d'être des millionnaires. Ça fait que ça aussi, il faut mettre ça dans la pipe de tout le monde. Là. C'est-à-dire que je comprends que Michel, après ça, il a trouvé qu'il y a des affaires qui sont mal passées au plan personnel, etc. Puis c'est facile de lancer la roche à François Roseau en disant « Ah, oh, mon Dieu, il a pressé le citron, puis blablabla. » Mais à un moment donné, quand t'es au jour le jour, il y a pas autant de méchants dans l'histoire puis de bons de l'autre bord. C'est pas comme ça que ça marche. Puis je pense que Michel jamais remettra en question le contrat qu'il avait signé, sauf sur un aspect où là, effectivement, je suis très d'accord. Ceci étant dit, tu l'as signé, t'as embarqué là-dedans. Ça fait que si Michel n'était pas vraiment à son affaire, s'il signait aveuglément tout en se disant « François, c'est un bon gars », puis que 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, il trouve que c'était exagéré, parce que je peux vous garantir qu'il n'y a pas une scène qui était dû à Michel Courtemanche qui s'est pas rendu dans sa poche, selon le contrat signé. J'en suis absolument convaincu. François Roseau, c'est droit comme une barre. Michel le disait lui-même quand on jasait. Sauf que effectivement, il y a un côté, appelons ça, abusif, dans l'entente, qui était que, je vous l'explique, quand tu vends un billet au Saint-Denis, 50 piastres, puis qu'on dit 50-50, évidemment, vous comprenez bien que c'est pas, il y a eu 1000 billets, on a fait 50 000 piastres, voici 25 000 piastres chaque. Tu loues une salle, tu fais de la pub, tu payes du staff, tu rembourses des investissements qui ont été faits jusqu'à la date de la première, parce que le jour de la première, il y a eu beaucoup d'investissements publicitaires pour créer quelque chose, puis un engouement autour de ça. Bon, bref. Et ça, c'était donc séparer 50-50 avant de verser les profits 50-50. C'est ça la logique. C'est que là, après ça, bon, des fois, il y a des frais d'administration parce que blablabla, mais bref. Il n'y a rien là-dedans qui est anormal. Les contrats de juste pour rire ont toujours été très, très, très normaux. Où c'était bizarre, c'est que dans la logique de François Roson, c'est qu'il y avait 50% qui était pris sur tout. Alors, peut-être vous n'en souvenez pas, mais à un moment donné, Michel avait fait une grosse publicité tournée au Stade olympique pour Danone. Puis c'était comme « I'm singing in the rain », puis c'était fait pour être diffusé au Québec puis en France parce qu'il était déjà une grosse vedette, etc. Là, j'avoue moi-même un peu de malaise de dire « Coudon, 50% du cachet sur une publicité, ou est-ce que là, c'est plus l'armée de la production qui est en arrière de ce contrat-là, mais c'est un gars qui signe un contrat puis qui s'en va faire un tournage, etc., puis qui remet... » C'était comme un peu des droits de suite, puis je comprends l'idée des droits de suite. C'est-à-dire que quand tu fais un one-man show avec un humoriste, évidemment, tu crées une demande, tu crées un engouement, tu startes une business qui n'aurait pas lieu en dehors de ça. Donc, c'est vrai que le producteur, à ce moment-là, investit des sommes sur lesquelles il espère un retour à peu près partout. Il y a un côté associatif dans l'idée d'un producteur avec un artiste, que les artistes adorent quand ça fait leur affaire, mais qu'ils peuvent pas juste dire « Ah, là, on n'est plus associé. » Ça marche pas de même. T'es-tu associé ou pas? T'aimes-tu l'idée d'être associé avec ton équipe? Si oui, ben t'es associé dans le bon comme dans le moins bon. T'es pas juste associé quand ça fait ton affaire dans tes poches. Bon. Alors, à ce moment-là, cette logique-là, je pense pas que personne la remet en question, sauf qu'effectivement, moi... Jamais, et d'ailleurs quand j'étais gérant moi-même, il y avait des bémols à cet effet-là, mais jamais je dirais on est 50-50 en production, on est 50-50 quand tu fais des publicités, on est 50-50 quand tu es engagé sur un tournage, et là c'est là que Michel dit, je me suis même fait gober 50% de mes revenus quand j'étais réalisateur à Caméra Café. Ce qui effectivement, si on s'en tient aux lettres du contrat, c'est totalement légal, mais il y a un bout qui est abusif. Alors, encore une fois, Michel qui l'apprend après parce qu'il regarde pas ses affaires, il y a un bout, on se comprend que... moi, j'ai déjà vécu un problème similaire. C'est de ma faute, donc c'est de la sienne à ce moment-là. Tout ça pour vous dire que c'est un cas où il y a beaucoup de choses impliquées. C'est-à-dire que Michel avait des problèmes perso du genre, justement, bipolarité, etc. Donc, on peut dire, c'est peut-être quelqu'un qui nécessitait peut-être de faire attention un peu plus. Mais encore là, le producteur, c'est-tu son rôle? Tu sais, ton producteur, c'est-tu le gars qui doit pousser ta carrière au maximum ou qui doit aussi faire en sorte que... Alors, chacun, il va de sa version, hein? Il y a du monde... Je suis le premier à dire souvent que la particularité de ce business-là, c'est que ton produit, c'est une personne. Non pas ton, mais le produit, ce qu'on vend, c'est une personne. Donc, quand Nike décide que les espadrilles bleues se vendent mieux que les noires, c'est qu'on en fabrique deux fois plus maintenant, c'est plus rentable, il paye sur un bouton, il appelle son VP marketing, l'usine en Chine, c'est terminé. Tu fais pas ça avec Michel Courtemanche, tu sais. Puis, je crois pas du tout que personne dans l'équipe autour de François Roson faisait ça. Au contraire, Michel était extrêmement apprécié, je m'en souviens très bien, puis il le sait. Ça fait qu'à matin, je veux juste vous dire que, quand vous entendez 50%, là, en production de spectacle, c'est banal, 50%. Spectra fait des 70-30, sauf que ce qu'ils appellent les coups de plateau sont 100% à l'artiste. C'est-à-dire qu'ils disent, hey, sur ce qui va rester, l'artiste garde 70%. Là, tu fais, wow. Sauf que l'artiste paye la salle, paye les techs, paye ce qu'on appelle le coup de plateau. Bon, quand tu vends bien des billets, c'est à l'avantage de l'artiste. Si t'en vends pas trop, ce qui est le cas des chanteurs, c'est 4,30 pour une pièce, là. On les avait fait les calculs. Ça fait que, tu sais, faites attention juste au dernier chiffre, là, en bas de la colonne qui dit 50-50. Oh my God. Dans le cas de Michel Courtemanche, c'est vrai que je trouve que c'était too much. Même moi, comme producteur ou gérant, j'aurais pas voulu faire ça parce que ça amène éventuellement ce type de problème-là où ce que ton client fait, coudon, c'est un peu abusif que tu me ramasses la moitié de ma paye sur tout ce que je fais prétextant que c'est ton travail autour de ma production qui est... Tu sais, je trouve que c'est too much. Ça fait qu'à un moment donné, de tout le temps s'en tenir au terme du contrat, ça peut être buzzant. Mais François Roson, c'est quelqu'un de très droit. Je veux pas dire qu'il est sans défaut, je veux dire juste que je sais qu'il est d'une honnêteté claire. Ce contrat-là a pas été fait en catimini ou rien. Michel l'a signé, mais Michel est quelqu'un qui filait pas. qui après ça a eu des problèmes. On peut pas reprocher non plus à Michel de pas avoir regardé ses affaires comme il faut. Absolument pas. Ça fait que je suis juste pas d'accord à dire qu'il aurait été crossé. Il a pas été jamais crossé de aucune façon. Je suis pas d'accord non plus avec les clauses du contrat que François Roson faisait à l'effet de mettre des 50% partout. C'est totalement too much. Mais voilà, ça a mal viré alors que pourtant ça a été éclatant pendant des années. Et puis aucune relation est éternelle. Ça, quand ça finit, c'est rare que ça finit dans la joie et l'harmonie, là. Avouons-le. Mais c'est ça. Donc, ce matin, je voulais juste montrer qu'il y a deux côtés à chaque médaille. Vous donner quelques infos à cet effet-là, puis aussi, c'est ça. Juste pas oublier qu'à un moment donné. Du partnership, il faut que ça soit vu des deux côtés. T'sais, j'entends souvent des artistes qui disent un producteur, c'est un gold digger. Un producteur, c'est quelqu'un qui prend 10 artistes, puis là-dessus, il y en a un, comme des investisseurs en nouvelles technologies. Ben, c'est pas vrai. T'sais. C'est pas vrai, parce que ton application que tu développes dans ton téléphone, elle t'appelle pas à 8 heures le soir parce qu'elle est angoissée ou elle a eu une idée. Je pourrais vous faire tout un autre podcast sur les gérants d'artistes qui sont très rares, très, très, très rares. Puis il y a une raison à ça, c'est que justement, tu sais, c'est comme, oh, en tout cas, ça, tu prends une grosse cote. Bon, ben, j'en prends pas de cote. J'en prends pas parce que j'en fais plus ce job-là. Ben, c'est pas ce qui, moi, fait que j'ai débarqué, là. Mais je veux dire, comprenez la logique à un moment donné. Quand vous trouvez que c'est trop cher un service, mettez-vous dans les bottes de l'autre puis dites, ouais, mais toi, t'affrais-tu la job compte tenu que ça prend ça, puis ça, puis qu'en bout de ligne, il reste ça? Tu le ferais-tu, toi, ce job-là, tu sais? Ça fait que... Alors, bref, vous comprenez que... Puis Michel, je le connais perso très peu, mais c'est un esti de bon Jack en passant. Puis François Roson, j'ai rien contre. Il a toujours été droit avec moi. Il fait partie de la gang qui a décidé qu'il me parlait plus parce que j'étais supposément rendu le gars macho de la télé, là. Mais ça, je suis pas surpris. Mais outre ça, moi, j'ai absolument rien à dire de négatif de ce gars-là. C'est lui qui est en arrière de Martin et Matt. Il est en arrière de plein de monde. Puis il a rendu des artistes avec de la visibilité de qualité. Puis Michel, ben qu'est-ce que tu veux, Michel, justement, il est pas responsable de comment sa tête, comment ça file dans sa tête à ce moment-là. Là. Quand t'es bipolaire, c'est pas un choix, là, on se comprend. Ça fait que ça aide pas à rien. Puis j'espère que la sortie de Michel va permettre de rayonner à nouveau. Parce qu'il a pas arrêté d'avoir du talent, là. Puis il a pas arrêté d'être un bon gars, là. Ça fait que ça sera le fun que tout ça, malgré la petite tempête un peu qu'il y a autour de ce conflit-là, de vision, là, bref. J'espère que Michel Courtemanche, qui est un vrai réalisateur, il faisait Caméra Café, il fait plein d'autres affaires, qui est drôle à mourir, qui est un asti, comme on dit, de bon Jack, avec un talent extraordinaire, c'est très vrai. Puis bon, cet épisode-là qui est pas le fun. Alors voilà, bye.